VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
13h à Dakar, 14h à N'Djamena. Bienvenue à notre journal. Mali, retour hier soir à Bamako des 159 Maliens rapatriés de Libye en provenance de Tripoli. Ils étaient bloqués dans le pays alors qu'ils tentaient d'émigrer en Europe. Plus de détails avec notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré.
C'est après 6 heures de vol que ces 159 Maliens sont arrivés à Bamako. Ils sont tous des rapatriés volontaires. 45 des 159 étaient en prison. Ils se réjouissent d'être revenus au Berkay sains et saufs, car ils étaient tous maltraités par la police libyenne.
Mon objectif, c'était de traverser la mer pour rentrer en Italie, voilà, au pays des Blancs. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Je suis arrivé dans un pays maghrébin où vraiment tout y est. Vécu seulement que la prison dans ma carrière. Donc, raison pour laquelle j'ai décidé de rentrer au pays. Ah, oui, ce soir ici chez moi, ici à Bamako, et dit Dieu merci.
Certains rapatriés ne sont pas prêts à oublier les calvaires libyens.
La souffrance que j'ai vécue là-bas, c'est seulement dès quand je suis arrivé aujourd'hui à Bamako à 18h, je pense à ceux qui sont là-bas. Moi aujourd'hui je suis en paix ici, mais ceux qui sont là-bas, c'est seulement dit, je pense beaucoup à eux.
Ce retour volontaire des 159 Maliens de la Libye a été possible grâce au gouvernement du Mali avec le soutien de l'Organisation internationale de la migration. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Nigeria, la reconquête de la forêt de Sambisa, un des derniers sanctuaires du groupe djihadiste Boko Haram, représente, si elle est confirmée, une victoire majeure pour l'armée nigériane. Mais ce succès risque aussi de déplacer la lutte contre les djihadistes extrêmement mobiles vers d'autres champs de bataille. Michel Joseph.
Après 7 années de conflits dévastateurs dans le nord-est du Nigeria, les experts estiment que la guerre est loin d'être finie, contrairement aux affirmations répétées du gouvernement et de l'armée. L'insaisissable chef du mouvement, Aboubakar Shekau, a répondu jeudi par une nouvelle provocation. « Nous n'avons été chassés de nulle part », a-t-il affirmé dans une vidéo, promettant de continuer à se battre jusqu'à l'instauration d'un califat islamique. Les insurgés se déplacent sur le lac Tchad pour échapper aux offensives militaires en cours, selon Aboubakar Gamandi, responsable du syndicat des pêcheurs de l'État du Borno, épicentre du conflit qui a fait plus de 20 000 morts et 2,6 millions de déplacés depuis 2009. C'est d'ailleurs dans ce labyrinthe lacustre que se sont retranchés les hommes d'Abou Moussab al-Barnaoui, leader d'une faction rivale de Boko Haram, adoubé par le groupe État islamique EI en août.
Le Niger voisin a annoncé cette semaine un programme d'amnistie aux combattants de Boko Haram qui déposeraient les armes. Une annonce faite après que le ministre de l'Intérieur, Mohamed Bazoum, a annoncé qu'une trentaine d'ex-combattants de la secte de nationalité nigérienne abandonnaient le mouvement djihadiste. Des programmes similaires existent déjà en Mauritanie, par exemple. Mais sont-ils vraiment efficaces? Au micro d'Abdourahmane Dia, la réponse du journaliste mauritanien Moussa Sambassi, spécialiste du terroriste.
Écoutez, c'est une approche en vue de la résolution de ce problème de l'extrémisme combattant qui a démarré d'abord en Algérie, qui a fait un programme similaire, qui a été le premier pays à mettre en place un tel programme, c'est-à-dire coupler une action militaire énergique avec une ouverture vers ceux qui n'ont pas, en tout cas, les mains attachées par du sang, pour qu'ils puissent réintégrer dans la vie de tous les jours. En Mauritanie aussi, la même approche a été entamée par le gouvernement, qui a organisé une sorte de programme à double voie, une voie militaire, c'est-à-dire le renforcement des capacités militaires des pays, mais en même temps, essayer de rapprocher les éléments qu'on appelle ici, entre guillemets, égarés, en fonction d'un programme de réinsertion, de prêts financiers, de financement de petits projets, etc., pour qu'ils puissent s'intéresser. Parce qu'en fait, l'analyse est faite que la plupart des jeunes qui sont recrutés par ces mouvements extrémistes ne sont pas des éléments, on va dire, convaincus. Mais simplement, c'est l'oisiveté, le chômage qui les pousse dans les bras des recruteurs des mouvements islamistes.
Et pour le cas de la Mauritanie, est-ce que c'est un programme qui marche bien, selon vous?
Écoutez, sur à peu près la cinquantaine d'individus qui ont été concernés par ce programme, je crois qu'on a pu signaler qu'un seul cas de récidive, c'est-à-dire un seul jeune qui a peut-être rejoint les rangs des combattants islamiques. Mais les autres sont mène une vie normale au milieu des autres. Enfin, chacun doit engager une activité et apparemment laisser tomber la voie des armes pour régler ces problèmes-là.
Justement, est-ce qu'on peut faire vraiment confiance à un ancien extrémiste qui cherche à réintégrer la société? Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi mettre un programme de surveillance de ces personnes-là?
Oui. Il y a forcément un risque important que ces jeunes en fait, profitent simplement de l'amnistie offerte pour aller rejoindre les combattants. D'ailleurs, il y a eu des cas comme ça aussi bien en Algérie qu'en Mauritanie. Comme je vous ai dit, il y a au moins un cas qui a été signalé. Mais ce risque, la plupart des gouvernements préfèrent le courir plutôt que de rester les bras croisés sans aucune approche. Et je pense que le Niger aussi s'engage sur cette voie parce qu'en en fait, on essaie, en mettant la pression sur Boko Haram, la pression militaire, mais en même temps, essayer de tarir les sources de recrutement du mouvement. Mais le seul moyen de tarir les sources, c'est d'offrir des opportunités d'insertion aux jeunes qui seraient enclins à les rejoindre.
Le journaliste mauritanien Moussa Samba Sy, joint à nous à Kchot en Mauritanie.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
En RDC, les évêques catholiques intensifient leurs efforts pour faciliter la conclusion d'un accord entre les protagonistes de la crise congolaise. Les détails avec Gino Rema de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Toutes les parties restent optimistes quant à la clôture des travaux ce vendredi. À la SENCO, les décors semblent plantés avant les derniers réglages. Pour le secrétaire général adjoint de la SENCO, les évêques clôturent ce vendredi. Abbé Donatien Chollet.
Au début de l'après-midi, la plénière va adopter, nous espérons. Et puis pour clôturer, nous espérons encore à 15h. Mais tout dépend des politiciens qui doivent trancher.
Pour la journée de jeudi, les évêques qui avaient une séance de travail avec un groupe de rassemblement devaient juste après aller rencontrer le chef de l'État sur certainement les quelques divergences qui restent à aplanir. Depuis Kinshasa, Gino Rema de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Félix Tshisekedi, délégué du Rassemblement, une plateforme de l'opposition, est optimiste.
Les questions qui sont encore pendantes, donc il y a des questions à régler et dont les détails sont importants, donc il faut qu'on se mette bien d'accord. Mais je crois, je n'ai pas l'habitude de le faire, je vais le faire quand même cette fois-ci. Je crois que nous sommes engagés et bien engagés pour bien atterrir en douceur. Je crois que ce sera à partir de 15h, sauf imprévu. Je crois que ça se terminera bien.
Vital Camerun, chef de parti signataire du premier dialogue parrainé par l'Union africaine, estime lui aussi que les négociations vont dans la bonne direction.
J'ai senti de part et d'autre, que ce soit du côté du rassemblement, du côté de l'opposition qui était au dialogue, de la majorité de la société civile, j'ai senti que tout le monde essaie de faire des concessions pour que seule la paix triomphe et que le peuple congolais soit vainqueur de ce processus. Nous ne sommes plus dans des postures où chacun veut être ceci ou cela, où chacun veut gagner contre l'autre camp. C'est cet esprit-là qu'il fallait imprégner à tout le monde dès le départ. Et quand on parle sur cette base-là, on construit des choses durable.
Propos recueillis par Gino Rema de Top Congo FM à Kinshasa. Actualité hors d'Afrique, la Russie ne va expulser personne en réponse aux sanctions américaines prises la veille contre Moscou, accusée d'ingérence électorale aux États-Unis. C'est ce qu'a finalement décrété ce vendredi le président russe Vladimir Poutine. « Nous n'allons expulser personne », a assuré M. Poutine, alors que son chef de la diplomatie, Sergei Lavrov, lui avait proposé d'expulser 35 diplomates américains. Mais la Russie se réserve toutefois le droit de prendre des mesures de rétorsion et restaurera les relations russo-américaines au vu de ce que sera la politique du président américain élu Donald Trump, a souligné le président russe. Rappelons que le président américain Barack Obama a ordonné jeudi l'expulsion de 37 diplomates russes soupçonnés d'être impliqués dans le piratage économique, piratage informatique contre le Parti démocrate pendant la récente campagne présidentielle américaine. Écoutez l'analyse du professeur Souleymane Bachir Diagne de l'Université Columbia à New York.
Une mesure comme celle-là, qui consiste à renvoyer des diplomates et des personnalités qui ne sont pas tellement des diplomates, mais du monde des renseignements, ce nombre-là me semble assez important pour qu'on considère que c'est là une réponse qui correspond véritablement à l'ampleur de la cyberattaque qui a été menée essentiellement contre le Parti démocratique. Il me semble qu'il faut mettre ça en relation également avec le fait que dans quelques jours maintenant, le nouveau président Trump va avoir à s'occuper des conséquences de cette réponse. Or, on le sait, le président Trump a manifesté, pour le moins, c'est le moins qu'on puisse dire, beaucoup de scepticisme d'abord devant l'accusation de la Russie et deuxièmement devant les sanctions à prendre. Il a encore dit qu'il ne fallait peut-être pas réagir. Donc, l'apporter se mesure également dans ces termes-là, c'est-à-dire que c'est la place du président à venir, Trump, devant ses responsabilités.
Souleymane Bachir Diagne de l'Université Columbia à New York.